Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
Bonjour et bienvenue tout le monde à cette édition du mardi après-midi du 7e Antiquaire. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui au 7e, on discute de Il Grande Silenzio, un film de 1969, Le Grand Silence ou The Great Silence, un film du réalisateur Sergio Corbucci, un grand, grand, grand réalisateur italien. Il est reconnu plus pour sa série de films Django, qui mettait en vedette le grand acteur italien aux yeux bleus, Franco Nero.
Qu'est-ce qui se passe?
On a un film ici qui met en vedette les deux protagonistes très intéressants, soit l'acteur Jean-Louis Trintignant, un acteur français avec une carrière devant lui et derrière lui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Allemand, Klaus Kinski, qui a joué dans énormément, énormément de westerns. Et
définitivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Un de ses importants rôles ici.
Quelqu'un?
Dans ce film de Sergio Corbucci. La trame,
c'est quoi cette voix-là?
Morricone, comme d'habitude. Et on voit encore Ennio
c'est
Morricone,
moi?
Pour
attends.
Ceux qui connaissent un
c'est
peu
qui
moins
qui parle?
Le western spaghetti. Chose on... que le western spaghetti qui...
On dirait que c'est moi.
Qui s'inscrit comme étant un genre de cinéma italien, du western italien.
Je suis où, là?
On appelle ça le western spaghetti, comme le western asiatique, on l'appelle le western noodle, et ainsi de suite. Ennio Morricone est responsable
Allô?
Pour toutes les grandes trames sonores. C'est celui qui
Allô, est-ce que quelqu'un?
La trame sonore pour les trois films de Sergio Leone, soit pour Allô? For a Few Dollars, For a Fistful of Dollars, For a Few Dollars More et The Good, the Bad and the Ugly, les films qui mettaient en vedette Clint Eastwood en tant que le personnage du Man with No Name. Très rapidement, l'histoire, qu'est-ce qu'on a devant nous autres avec The Great Silence? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce film-là est reconnu comme étant un des plus importants films? C'est à la base la simplicité de l'histoire. On a deux personnages, le personnage de Jean-Louis Trintignant qui joue Silence et le personnage de Klaus Kinski qui joue Loco.
Qu'est-ce qui se passe
ces
ici?
Ces deux hommes-là sont des bounty hunters, des tueurs à gages.
C'est quoi cette voix-là? Je comprends pas. Je sais pas où
durant
je suis.
Durant le déroulement du film, ils sont dans un village de Mormons. Je vous dis, l'histoire, elle est excessivement simple. Ça fait en sorte que, comme plusieurs films, le plus que l'histoire, elle est simple, le plus que le réalisateur et le scénariste et tout le monde peut s'amuser avec. Donc, on a une ville d'innocents et on a des brigands à l'extérieur du village. Les innocents, les mormons, ont super peur que les brigands arrivent, donc engagent des tueurs à gages. Et les tueurs à gages sont pas mal la loi autour de cela. Mais... puisque, bon, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, on se retrouve avec un personnage qui, le personnage de Klaus Kinski, Loco, qui est vraiment un personnage meurtrier. Donc, c'est un gars qui tue sans considération. C'est un gars qui a une énorme soif de sang. Et c'est un personnage très, très, très exubérant, très... c'est très, très, très intéressant comment est-ce que Klaus Kinski a construit ce personnage-là de Loco, parce qu'il n'est pas complètement... On voit qu'il n'est pas complètement sain d'esprit. Je vais revenir tantôt avec l'identification des personnages par rapport à dans le film. On va voir ça un peu
attends,
plus tard.
Attends, OK, je pense que je comprends. Ça, c'est une vieille émission. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber dans mes vieilles archives. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. C'est peut-être pour ça que j'entends ma propre voix, mais c'est pas moi, là. Ça, c'est moi de... Je pense que je suis tombé dans les vieilles archives du 7e, les émissions qu'on pensait qui étaient perdues. Puis là, je suis dedans, puis je... Mais, tu vois, il y a tellement de choses qui ont changé depuis cette émission-là. En fait, c'est pas vrai qu'il s'appelle Loco. Loco, c'est la traduction... qui ont mis pour les sous-titres. On l'entend, on le voit quand j'ai réécouté Great Silence depuis ce temps-là. Je sais, quand on suit les lèvres des personnages, on voit qu'il ne s'appelle pas Loco, il s'appelle Tigrero, il s'appelle le petit tigre. Le personnage de Klaus Kinski, Loco, c'est une mauvaise traduction. Le vrai nom, c'est Tigrero. J'ai appris ça depuis le temps. Ah, c'est peut-être ça que je fais ici. Je suis en train de me revoir, me réentendre, parce que je faisais des erreurs, parce que j'hésitais, je trouve que j'hésitais énormément. C'est-tu ça? J'ai-tu une chance de revenir pour corriger mes erreurs.
Donc, c'est un personnage qui est pas mal amoral, mais qui en même temps prouve énormément le point que lui, ben, c'est un tueur à gage. Et...
Oui, mais aussi, c'est... toi, c'est peut-être moi qui ai vieilli. Y a pas le choix. Le personnage de Thierry Rero, le personnage que Klaus Kinski interprète, il a pas le choix. Il tue pour survivre. Fait qu'il n'est pas si moralement répréhensible que ça. Parce qu'il a ça comme moyen. Il est bon à faire ça. Puis il a ça comme moyen de survivre. Il opère quand même à l'intérieur de la loi. Il demande quand même seulement les bounties, les récompenses. Fait qu'il n'est pas vraiment un si grand méchant que ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très compréhensible par rapport à sa posture. Puis effectivement, c'est pas un psychopathe parce qu'il est continuellement en train de chasser les primes. Il va juste tuer les personnes qui sait qui ont un prix sur leur tête et donc que lui peut assurer sa survivance et aussi la survivance de son groupe. Fait qu'il y a quand même quelque chose de pas... Il n'en prend pas nécessairement un plaisir malgré qu'il va jouer de cette manière-là. Moi, je trouve que la moralité de Tigrero, elle se défend limite maintenant. Mais bon, je dis ça, puis ça fait 15 ans depuis que j'ai dit ça. J'ai vraiment, vraiment changé, là.
Il veut juste survivre. C'est tout ce qu'il veut. Il veut remporter son argent et pouvoir avoir un toit par-dessus sa tête et de la nourriture pour survivre. C'est juste très simple. En conséquent, le revers de la médaille, on a le personnage de Silence, qui est joué par Jean-Louis Trintignant. Le personnage de Silence qui est complètement muet durant tout le film.
Complètement muet, ça, en fait, c'est Marcello Mastroianni qui l'a suggéré à Corbucci de rendre le personnage de Jean-Louis Trintignant muet pour des raisons de... Je pense que c'était par rapport au doublage, mais je ne suis pas 100% certain. Il y a une autre affaire qui était vraiment intéressante que lors du tournage, qu'est-ce qu'il faisait Bon, on le sait que ces films-là, parce que c'est des castings internationaux, c'est des films italiens, mais il y a des acteurs allemands, et des acteurs français, des choses comme ça, et tout le monde parlait un peu dans leur langue, mais Corbucci ne leur faisait pas réciter leur ligne, il leur faisait seulement compter. Fait que tu peux vraiment, encore en lisant les lèvres des acteurs, des actrices, les voir réciter comme Kinski, tu le vois dire Eins, zwei, drei. Et ça, tu sais que c'est vraiment drôle que Mastroianni, pour Trintignant, il a dit « Ben, regarde, essaye juste de comme pas le laisser parler. » Fait que c'est pour ça que le personnage de Silence s'appelle Silence. C'est vraiment un truc de contraste, ce film-là.
Il est un grand homme habillé en peau noire, des peaux d'animaux, très sombre, qui porte un pistolet très particulier à sa hanche et qui... ben, on va partir en exemple. Je vais vous montrer un peu comment ils le décrivent dans le film. On a le testament d'une femme qui parle de qu'est-ce que c'est la légende du grand silence. Juste ici, ça devrait.
Once my husband told me of this man, he avenges our wrongs. And the bounty killers sure do tremble when he appears. They call him Silence, because wherever he goes, the silence of death follows.
Donc, on voit avec cette description que c'est un personnage extrêmement, extrêmement mythique, extrêmement caché et mystérieux, mais toujours une figure de justice. C'est les figures qui sont emblématiques dans le film. C'est ces deux personnages-là qui s'opposent. Et très loin de moi de dire que le film est simple, mais on écoute le film pour regarder ces deux personnages-là interagir. Soit le personnage de Silence, qui est... Et c'est ici où est-ce qu'on voit qu'il y a énormément d'amusement avec les personnages puis comment qui sont considérés, parce que le personnage de Silence est extrêmement noir, est extrêmement profond et ancré dans cette noirceur. Le personnage de Loco, lui, exactement le contraire, joué par Klaus Kinski, qui est un acteur qui a toujours été reconnu pour son sourire excessivement charismatique. C'est un homme qui est très...
magnétique.
Qui est très portrait
magnétique.
Comme un...
Le mot que tu cherches, c'est
magnétique. Je
suis
tenté de vous dire okay. Un farceur.
Magnétique.
Mais ça va venir un punch un peu plus loin dans l'émission. C'est un acteur aux cheveux blonds très, 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 très clairs et aux yeux bleus très, très clairs. Et c'est fascinant comment Corbucci a pu mettre en scène ces deux personnes-là comme étant, un, ben, Loco, le tueur amoral.
Non, non, il n'est pas...
non. Disons, angélique.
Non, il est, mais non, non, il est pas moral. Mais non.
De festoyer et de rire. Et Silence, qui est supposé être le personnage, le protagoniste positif, mais qui lui est habillé tout en noir, qui reste complètement terne, qui est morne, qui est dans sa noirceur. Et donc, on voit dans le film que ces deux personnages-là sont définitivement les deux faces d'une même médaille. Il y a des détails comme le fait que les deux tueurs à gages, puisqu'ils sont si hautement respectés, ils sont très très bons dans leur domaine, les deux chargent exactement le même prix. Ils chargent 1 000 $ par tête. Donc on a vraiment l'idée que ces deux personnages-là sont la même personne, mais d'un côté et de l'autre. C'est la même médaille, c'est juste les deux faces.
Ça quand même, c'est pas pire. C'est vraiment pas pire comme analyse. Je vais lui donner ça.
C'est une bonne observation. Western, et c'est pour ça que Corbucci est maintenant reconnu comme avoir fait un des plus importants western spaghetti, parce que c'est deux gars qui tirent jamais en premier. Clint Eastwood l'a un peu indiqué dans ses films, dans la trilogie de Man With No Name, mais ces personnages-là en font un point de ne jamais tirer en premier. Ils provoquent leur opposant jusqu'à temps que lui, il dégaine en premier. Et c'est là où ces deux personnages-là, étant tellement en confiance de leur capacité, peuvent tirer plus.
Et c'est ça, je pense, au final, qui fait que les deux sont des personnages moralement injustes. T'sais, c'est limite des gars qui attendent que l'autre fasse une démonstration d'agressivité et tout, mais que eux autres, pour se protéger, du côté de Tigrero, ben c'est de se protéger de la loi, puis de l'autre côté, avec Silence, c'est de se protéger comme moralement. Ben les deux gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est essentiellement, ils se picossent, ils se provoquent pour voir c'est lequel qui va pogner les nerfs en premier. Puis celui qui pogne les nerfs en premier, ben c'est celui qui va dégainer, puis c'est celui qui va se faire descendre. Fait qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de bons personnages. C'est vraiment deux qui risquent d'être au cul.
Donc, ça l'empêche, ça fait en sorte qu'ils sont constamment dans l'idée de la légitime défense, qu'ils sont constamment en train de se défendre. Et aussi, ça déculpe ce mythe-là qu'il y a des personnes qui peuvent juste pas l'atteindre. C'est très spécial de voir ça. Le film, par soi-même, a été encore, j'aime beaucoup en parler, a été très censuré. On voit qu'au cinéma, je veux dire, à travers la recherche des archives, on découvre que le film n'a jamais été présenté dans sa version intégrale, pas au cinéma. Il a toujours été présenté avec une fin alternative qui, heureusement, on peut... heureusement, malheureusement, on peut la voir sur le DVD. Le DVD, je vais en parler un peu plus tard, je crois.
Je respire comme c'est pas croyable. Moi, j'arrête pas d'inspirer, ça n'a pas rapport. C'est vraiment... c'est irritant, là. He was a joker like you.
Whiskey. Ah, que j'adore cette ligne-là. Là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est une conversation entre le shérif et le personnage de Loco. On voit le personnage de Loco qui est très enjoué, qui est très un personnage très emblématique de comment est-ce qu'il est capable de jouer avec ces autorités-là. C'est absolument fascinant. Et en vient mon point, que moi, ça me fait frissonner à chaque fois que je parle de ça. Great Silence est aussi une esquisse incroyable et elle est fantastique, à mon avis, je trouve extraordinaire, de Batman et Joker. Je sais que c'est un petit peu difficile à croire à la base, mais le personnage de Jean-Louis Trintignant ressemble à tellement de points au personnage de Batman et...
Ouais, ça aussi, c'est ça. Depuis les années, je me suis un peu éloigné de cette idée-là. Surtout avec le fait de Tigrero, surtout avec le fait... Ben, en même temps, l'analyse fonctionne sur le fait aussi que Batman est fondamentalement un criminel. Il opère à l'extérieur de la loi. Il arrête pas de fesser sur des personnes mentalement instables. Fait que ça fait pas nécessairement lui le bon. Mais c'est correct. Effectivement, Klaus Kinski a quelque chose qui ressemble à quelques versions de Joker. Ça peut quand même passer, mais je vais pas complètement à pieds joints dans l'analyse, comme dans l'idée que The Great Silence est un film de Batman, comme je le faisais à l'époque. Il y a quand même quelques petits trucs que je mentionne pas qui sont comme intéressants à savoir. Le fait que les parents de Silence ont été descendus par des criminels devant lui, que son père s'appelait Gordon. Il y a des petites affaires. Mais je pense que si on se met à considérer l'angle que Great Silence est un film de Batman, ben ça finit par ternir un peu l'idée du bon et du mauvais dans Batman. C'est que Batman n'est pas nécessairement une personne morale et que Joker, fondamentalement, n'est pas une personne morale non plus. Sauf que ça, ça pourrait comme plus affecter notre perspective sur l'univers de Batman et Joker que de l'univers de Great Silence de Corbucci. Fait que je tire un peu la couverture de mon bord, mais je me rappelle que à l'époque, j'avais tendance à faire ça un peu plus dans mes analyses. Puis, tu sais, je vais pas me blâmer, là. J'étais comme enthousiasmé. Et weird.
C'est la même chose du côté de Loco avec Lars Kinski. Un gros sourire. Aucune conscience par rapport à la vie et la mort. Il est très prêt à sacrifier n'importe qui. Et il veut juste faire ses petites affaires. En même temps, Joker, Loco, et même, tu vois, avec cette conversation-là, on voit que le personnage, il dit, j'ai déjà connu un gars comme toi, c'est un Joker. Et je vous dis, une fois que vous allez voir le film, les ressemblances entre le personnage de Silence et le personnage de Batman sont foudroyants. OK, qu'est-ce qui... Il y a tellement de choses qui me passionnent à propos de ce film-là, donc je vais pouvoir en parler pendant un long moment. On parle d'un western spaghetti, donc un western italien, mais on parle aussi d'un anti-western. On parle on prend les codes, mais on joue avec. Donc, à la base, un western, bon, comme tout western, on dit c'est une opposition entre le bon et le méchant, mais c'est bel et bien ça, sauf que la médaille, comme je racontais avant, elle est un peu des deux barres, disons, la médaille. En même temps, c'est un western qui se passe dans l'Iowa, dans la région de Fargo, donc complètement enneigé. C'est un western froid, c'est un western blanc, c'est absolument incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail avec les longues plaines de blancheur, c'est tellement beau.
Ça aussi, c'est super intéressant parce que depuis l'émission, il y a plein d'autres versions de Great Silence qui sont sorties, dont une qui a un complément, une espèce de bonus feature avec Alex Cox, le réalisateur de Repo Man et tout. Puis Alex Cox est un immense fan de Great Silence, je pense que c'est un de ses films préférés. Puis il explique que quand Corbucci a demandé de faire ses films, en fait, ben, c'est que le western spaghetti, de règle générale, se passe toujours dans le désert. T'sais. On sait toujours, c'est toujours du sable et tout. Et quand il a fait The Great Silence, ben, il l'a mis dans la neige. Puis quand il a fait Django, il l'a mis dans la boue. Fait qu'il est continuellement en train de varier dans les contextes, de varier dans les environnements du western. Ça fait que c'est vraiment intéressant que Corbucci a vraiment pas repensé, mais est en train de mettre le western spaghetti dans différents environnements. Ça, c'est quand même cool. Puis c'est une belle observation d'Alex Cox.
On pense tout le temps au western dans le désert. Ben c'est une autre forme de désert. Là, on a des personnages qui sont tout le temps habillés. On en vient même à discuter comment que les armes à feu sont pas vraiment utilisables. C'était gel dans le film. C'est tellement, tellement, tellement beau. Et en même temps, on a des anticlimax. On a des montées énormes. Et je veux pas trop vous raconter la fin. À la base, ça m'horrible d'être obligé de faire ça. Mais on se retrouve avec une fin qui fait un peu... qui fait un peu... Lars von Trier fait du western.
Ouais. Faire des références à Lars von Trier maintenant, c'est plus aussi hot que ça l'était à l'époque. Bon, je le savais pas. Ça aussi, c'est un aspect qui est important et qu'on peut de plus en plus explorer parce que les autres versions sont sorties, mais il y a plusieurs fins différentes qui ont été faites. Fait que la fin qui a été conservée, la fin originale, celle qui est demandée par Corbucci, c'est la fin pessimiste, c'est la fin qui est nihiliste, limite. Mais il y a aussi une fin heureuse qui est vraiment bizarre, honnêtement. Et sur la majorité des DVD et des Blu-ray de Great Silence maintenant, mais honnêtement, elle fonctionne pas tant que ça parce que ça devient tellement... C'est presque du slapstick là, pour que ça fonctionne, pour qu'il puisse en sortir, parce qu'on est vraiment dans un cul-de-sac, là, on est dans un point de non-retour à la fin du film. Et il y a comme une fin qui tranche la pomme en deux, si on peut dire, qui est pas super réjouissante, mais qui est un peu dans l'optique de « on doit faire des sacrifices, des menaces comme ça ne peuvent pas être vaincues facilement et tout. » Fait que non, il y a quelque chose par rapport aux fins de Grace Island qui, bon, au final... laisse une plus grande place à la fin originale, là, la fin pessimiste, la fin dark, la fin qui ne laisse aucune place à l'espoir.
De fin qu'on n'a jamais vue et que moi je crois qu'on ne reverra jamais au cinéma, particulièrement pas dans le cinéma western. La fin qui très intéressamment, elle a été suggérée par l'acteur Jean-Louis Trintignant, qui n'était pas à la base supposé de jouer dans le film. C'était Franco Nero qui était supposé prendre le rôle, l'acteur fétiche du réalisateur Sergio Corbucci, sauf qu'il n'était pas disponible. Donc, ça a fait en sorte que Jean-Louis Trintignant a pu prendre la place et offrir cette magnifique, extraordinaire fin. Un autre petit fait intéressant sur la production que je trouve absolument hilarant, c'est le fait que, ben c'est ça, il y a énormément qui a été tourné aux États-Unis, dans la région de l'Iowa, mais il y a beaucoup de scènes qui nécessitaient de la fausse neige. Et la fausse neige, on le sait, pour les aficionados, on utilise souvent maintenant des pelures de patates. Mais dans ce film-là, disons, on a un film fin 1960, il utilisait de la crème à barbe. Donc, on a une autre variante sur Akira Kurosawa qui utilisait de l'encre pour faire de la pluie. Là, on a Sergio Corbucci qui utilise de la crème à barbe pour faire de la neige.
Puis c'est super clair que c'est de la crème à raser quand tu regardes la dernière scène. Vraiment, le moment où il arrive, le final face-off, là, si on peut dire, si vous prenez juste un instant pour regarder l'environnement, bon, tu sais, je pense que nous autres, on a l'avantage terrain du Québec où on est familier avec de la neige. Fait que pour nous autres, c'est assez évident quand tu la regardes que c'est pas de la neige pantoute. Ça ressemble un peu à la fin de Ghostbusters. Donc, la crème à raser ou des guimauves.
Je vous dis, quand vous écoutez le film, il y a 2-3 scènes que vous dites, bon, j'en reviens pas, ils ont dû utiliser des tonnes et des tonnes et des tonnes de crème à barbe pour faire ces effets-là. C'est excessivement beau. On va discuter un peu pour ici. Je veux juste sauter, parler un peu de Corbucci. Corbucci, qui est un réalisateur complètement... Ben, avant d'être un réalisateur, c'est un personnage que le monde trouve qui est déjà un peu bizarre. Sur la version DVD qui est disponible en Amérique du Nord, on a un commentaire d'à peu près 5 minutes, un vidéo introduction du réalisateur britannique Alex Cox, celui qui a réalisé Repo Man. Et il dit même qu'il a réutilisé une des actrices du film dans Repo Man, parce que Alex Cross est un si grand fan du Grand Silence. Sergio Corbucci est un réalisateur très particulier du fait que c'était un gars qui détestait les hippies. Il détestait le mouvement hippie. C'était un gars excessivement agressif. Mais on voit qu'il y a des obsessions récurrentes dans son cinéma. Il est constamment en train de parler d'handicap. Il est constamment en train de parler de justice. Mais c'est un gars qui était très préoccupé et contrarié par ça. On le voit beaucoup dans ces Django, puis on le voit encore plus dans Great Silence. Et c'est pour ça que je vous encourage si immensément à aller regarder et à écouter Great Silence. C'est un 1h40 de pur petit bonheur. Je pars avec un dernier extrait audio de Silence, parce que c'est tellement extraordinaire, puis les lignes sont si mémorables dans ce film-là. La troisième piste du Grand Silence. On y va.
And I know you're supposed to try and kill me. But I'm not losing my temper of that, I'm sure. If anybody draws first, it's got to be you. Jack, I reckon I better not wear a gun. Come on, take off my belt.
Là, on a la confrontation finale, l'élévation. C'est pas la confrontation finale, en fait, c'est la première confrontation entre le personnage de Silence et le personnage de Loco, qui s'étaient déjà vus durant le film. Ils ont fait une longue promenade en cheval ensemble, sans savoir, évidemment, sans savoir qu'ils sont face un à l'autre devant leurs ennemis mortels. Je vais finir avec ça. Disons, je vais renvoyer la note en disant il faut vraiment que vous ayez voir ce film-là, parce que des Western Spaghetti, comme ça, il en fait pas, il en fait plus, et on découvre tellement sur le genre en regardant ces grandes antithèses. Définitivement, si vous voulez regarder sur l'Internet, il y a des analyses qui ont été faites à propos du Grand Silence concernant déjà le titre qui est à multiples dimensions. Le Grand Silence, c'est la mort, c'est le dernier moment, c'est aussi le personnage, le Grand Silence, et c'est aussi quelque chose d'autre que je peux pas vous révéler à l'instant. Mais on parle beaucoup de considérer ce film-là comme le plus important classique du Western Spaghetti, et de peut-être mettre les Sergio Leone un peu de côté, parce que Corbucci était un homme qui avait beaucoup moins de moyens que lui. Si vous êtes toujours intéressé, à la base, il y a aussi un pseudo-remake réadaptation avec Clint Eastwood. C'est un film qui s'appelait Joe Kidd, si vous voulez regarder aussi. C'est super intéressant. J'ai regardé, c'est la perspective de Clint Eastwood sur ce mythe-là, le mythe du Grand Silence. J'espère que ça a été informatif. Je apprécie énormément. Je dis bonjour à tous mes auditeurs. Passez une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.
Oh shit. Qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais maintenant que c'est fini? Oh. Ben, je sais pas trop comment je vais sortir d'ici, là. J'imagine que je vais aller par là-bas. Non. Non, il n'y a pas l'air de rien se passer ici. Peut-être par là. Ouais. Peut-être faire un bout par là-bas, là. Non, rien ici non plus. Bon, je suis mal pris. Je ne sais pas comment sortir de cette archive qu'on pensait disparue, mais qui est super agréablement réapparue comme ça. Agréablement, c'est limite parce que je suis un peu pogné dedans. Y a-t-il une manière? Comment qu'on sort d'une archive sonore? Comment qu'on... Je sais pas. Oh shit, c'est quoi ça? Ah!